Alors, on étudie ce soir le protestantisme. Et toujours dans le même style de réflexion, nous allons envisager un chapitre qui pourrait s'appeler « La situation et la vocation du protestantisme dans la société française contemporaine ». Situation et vocation du protestantisme dans la société française contemporaine. Alors, on commencera par une citation de Michel Rocard, qui est un bon protestant, comme chacun sait, et qui disait ceci: « Le protestantisme n'a d'avenir que s'il manifeste des convictions dans le domaine de la foi. » Tout à fait curieux de l'entendre dire ça, mais enfin, il paraît qu'il aurait dit ça. Et, bon, alors ça c'est... S'il manifeste des convictions dans le domaine de la foi. Je crois que Rocard disait ça, lui qui a été l'ancien président des éclaireurs unionistes, c'est parce qu'il était bien conscient que la situation du protestantisme dans la société française contemporaine aujourd'hui, c'est essentiellement une situation de crise. L'âge d'or de l'influence protestante est passé. Cet âge d'or se situe entre 1870 et 1920 environ. Après cela, comment ? Ah, ça c'est l'étendard. 1920. Oui. Et à partir de cette date-là, la situation a commencé à se dégrader pour arriver aujourd'hui à cette situation de crise que tous les gens un peu avertis à l'intérieur du protestantisme reconnaissent. Alors, voyons tout d'abord, si vous voulez, la situation, et dans un deuxième temps, nous verrons la vocation. La situation, tout d'abord. Bon, la situation, nous l'avons déjà passablement évoquée dans les études précédentes, lorsque nous avons envisagé tout particulièrement les sondages, la situation démographique en ce qui concernait le protestantisme. Maintenant, nous ne reviendrons pas donc sur ce statut de micro-minorité, mais nous verrons plutôt la dimension du dynamisme interne, ou plutôt du manque de dynamisme interne. Du manque de dynamisme qui n'est pas évident quand on voit notamment la surabondance d'initiatives, d'entreprises, de pensées qui sont issues du protestantisme. Et ceci d'une manière quasi quotidienne. Le doyen Mel, qui est professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg et qui centralise un petit peu toutes les informations dans ce domaine, disait que lui-même était absolument effaré de voir le nombre sans cesse croissant d'initiatives diverses qui sont prises par différents mouvements d'origine ou d'inspiration protestante. Alors, ce foisonnement peut s'interpréter de deux manières. D'abord, comme des signes de vie, ou aussi, et plutôt, je dirais, comme signes d'incohérence et d'incertitude. Et finalement, le gros problème est celui-là. Le protestantisme vit dans une espèce d'incohérence interne parce qu'il n'a plus de certitude. Et là, nous parlons essentiellement, bien entendu, du protestantisme historique, c'est-à-dire luthéro-réformé en général et réformé en particulier. Il y a une perte des racines, d'une part, des racines de la foi, à cause de la théologie, une théologie intellectualiste sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir dans une étude ultérieure, qui va de pair avec un sens des réalités ecclésiales, c'est-à-dire avec un détachement, comme on dirait en milieu catholique, de la pratique religieuse. C'est ainsi que on se trouve avec des paroisses gigantesques dans les grandes villes, par exemple, qui comptent des centaines, voire des milliers de membres inscrits, et qui se retrouvent quelques dizaines tout au plus au culte le dimanche en temps normal. Et ces gens-là, ou ces églises où vous trouverez parfois une douzaine, une quinzaine de personnes le dimanche au culte, pour les grandes fêtes de Pâques ou de Noël, vous pouvez se retrouver à 300-400 facilement. Enfin, de moins en moins d'ailleurs, même ça aussi. Mais il y a quelques années encore, c'était le cas. Il y a donc un sens, une perte du sens des réalités ecclésiales, de plus en plus la conviction qu'on peut être chrétien en dehors de l'Église. Cette perte du sens des réalités ecclésiales et de l'idée fausse qu'on peut être chrétien en dehors de l'Église vient d'une part de la perte des certitudes que nous évoquions il y a un instant, mais également de la situation de diaspora. D'abord parce que les communautés protestantes étaient souvent des communautés rurales qui se dépeuplent par un phénomène qui est un petit peu un phénomène sociologique, c'est-à-dire l'exode rural. L'exode rural qui a frappé la plupart des grands terroirs protestants tels que les Cévennes, le Poitou, la Normandie, etc. Et on a constaté que des gens qui étaient, entre guillemets, pratiquants quand ils étaient dans les campagnes ne le deviennent plus quand ils arrivent dans les villes, même si par ailleurs, dans ces villes, il y a une paroisse réformée, par exemple. On ne retrouve pas au niveau des villes ce qui est perdu au niveau des campagnes. Si bien qu'il y a une dilution de la masse protestante dans la nature. Bon, il y a aussi, souvent, les protestants sont des gens qui travaillent dans le secteur tertiaire, donc en tant que fonctionnaires, etc., et sont sujets à des mutations diverses, ce qui fait qu'ils se retrouveront très facilement dans des endroits où il n'y a absolument pas de communauté. Ce qui les amènera à s'installer dans une vie chrétienne hors de l'Église. Et puis après, quand ils se trouveront dans un lieu où il y a une Église, ayant pris l'habitude de vivre leur foi isolée, bien ils n'éprouveront plus le besoin d'aller au culte. Et c'est ainsi qu'il y a un affaiblissement du tissu protestant à une vitesse extrêmement importante. Si bien qu'on peut dire que la situation est sombre aujourd'hui. Elle n'est pas encore franchement catastrophique, mais elle pourrait rapidement le devenir. Elle le pourrait tout particulièrement avec l'évolution du monde extérieur, la sécularisation. Elle le pourrait également à cause de l'influence du catholicisme et de l'œcuménisme dont nous avons parlé ensemble la dernière fois avec le doyen Carbonnier, qui se présente face au protestantisme dans une situation qui le met mal à l'aise. Le protestantisme n'est plus vraiment lui-même face au catholicisme aujourd'hui. D'abord, parce que le catholicisme lui déclare qu'il n'est plus seul à avoir le monopole de la réforme. Que l'Église catholique, elle aussi, a vécu sa réforme, et que par conséquent, la réforme protestante du XVIe siècle est désormais inutile. C'est un raccourci un peu rapide que je fais, mais finalement, les protestants se demandent encore aujourd'hui de plus en plus si l'existence d'un protestantisme, d'une église séparée de Rome, est encore nécessaire. Et notamment dans les foyers mixtes qui sont de plus en plus nombreux, il y a une attraction qui se fait en général au détriment de la partie protestante et à l'avantage de la partie catholique. À cause de ce phénomène notamment, où le conjoint protestant, n'ayant plus de certitude, et finalement constatant superficiellement qu'il y a eu au sein de l'Église catholique, après Vatican II en particulier, un mouvement de réforme, eh bien se dit qu'il est temps de fermer la parenthèse du XVIe siècle et finalement de revenir au sein de l'Église catholique. Il y a également une autre interpellation très forte que le catholicisme adresse au protestantisme, c'est que l'œcuménisme, au stade où il en est arrivé, est un stade qui doit être dépassé. Quel est le stade auquel on est arrivé? Eh bien, on est arrivé à une coexistence pacifique de l'état de guerre qui marquait encore le début du siècle jusqu'aux années 20, justement, et c'est tout à fait intéressant de voir que ça coïncide avec le déclin du protestantisme. Une coexistence pacifique s'est instaurée entre catholicisme et protestantisme en France, où on a fait en quelque sorte ensemble, dans un dialogue très franc, le bilan de ce qui était point de convergence et point de divergence sur le plan doctrinal, et on a pris acte des points de convergence et des points de divergence. Le catholicisme notamment dit « ceci n'était qu'une première étape, nous ne pouvons pas en rester là ». Il faut maintenant, coûte que coûte, tendre vers l'unité organique. L'unité organique est une conception catholique. Et très souvent, comme nous l'avons vu avec le doyen Carbonnier, le protestantisme entre dans cette vision-là, dans cette problématique, oubliant que précisément il n'a de sens que comme contestation de cette Église lieutenante de Dieu, en quelque sorte, que l'Église catholique. Ensuite, il y a deux autres points sur lesquels le catholicisme interpelle fortement les Églises réformées, notamment. C'est la question des ministères, et plus particulièrement la question des ministères d'unité, ou du ministère d'unité, c'est-à-dire, comprenez, le ministère du pape, et deuxièmement sur celui de la Vierge. Et tout récemment, il y avait un document qui circule actuellement dans la plupart des groupes charismatiques catholiques de France au sujet des apparitions de la Vierge à, je ne sais pas où, là, en Yougoslavie, où la Vierge aurait fait des déclarations extraordinaires sur le réveil charismatique, disant que le réveil charismatique était vraiment de Dieu, etc. Enfin, cautionnant à fond le réveil charismatique, disant qu'il fallait... Alors, elle prophétisait un brillant avenir pour le réveil charismatique, et que, dans le fond, il fallait maintenant que tout le monde se regroupe dans ce réveil charismatique autour, évidemment, d'elle-même, la reine du ciel, etc. Et que l'on fasse des prières en son nom, que l'on prophétise en son nom, etc. Alors, voilà, quand on connaît, quand on a suivi, comme nous l'avons fait, les choses depuis déjà un certain nombre d'années, on se souviendra qu'il y a presque 10 ans maintenant, le cardinal Suenens avait écrit un livre sur le réveil charismatique, alors que ce dernier n'était encore dans le milieu catholique qu'à ses débuts, où il disait que l'unité visible se ferait autour de la mère du Christ, puisque dans une famille désunie, c'est toujours autour de la mère qu'on se réconcilie, comme la théologie Voléo. Alors, voilà, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui dans le protestantisme qui se tournent vers la Vierge, aussi étrange que ça paraisse, qui découvrent la piété mariale, y compris des enfants de pasteurs. Oui. Et certains vont jusqu'au bout du cheminement, c'est-à-dire passent au catholicisme avec armes et bagages. Alors, je crois qu'ici nous nous trouvons dans une situation difficile, où la question essentielle qui se pose, c'est la question de l'existence des communautés protestantes, la survie des églises. Le protestantisme a-t-il encore un avenir ? Si l'on fait une courbe prospective, on peut se dire que cet avenir est très compromis. Bien entendu, nous ne sommes pas seulement, nous n'avons pas ici affaire, heureusement, à un phénomène sociologique, mais si l'Église est aussi une réalité sociologique, elle est d'abord une réalité spirituelle, même si dans beaucoup d'églises protestantes, il ne reste plus grand-chose de spirituel. On peut toujours s'attendre à ce que les choses n'évoluent pas d'une manière linéaire, mais à ce qu'il y ait une intervention de l'Esprit de Dieu et qu'il y ait un réveil. Mais il est clair, comme le disait Carbonnier, que s'il n'y a pas un réveil, s'il n'y a pas au sein du peuple protestant un retour à la parole, eh bien, l'avenir du protestantisme est extrêmement compromis. Troisième point qui entraîne précisément cette crise et qui risque de la précipiter en catastrophe, c'est ce qu'on appelle la sécularisation, ou si vous voulez parler autrement, la privatisation du religieux. Nous trouvons aujourd'hui dans une situation, en France en particulier, en Europe de manière générale, où le religieux, tant catholique que protestant, n'est plus au centre de la vie collective, mais est relégué dans le domaine du privé. Je crois que c'est un phénomène qui date tout au plus de plusieurs dizaines d'années. Bien sûr, on pourra dire, mais il y a eu 1905, la séparation de l'Église et de l'État, mais à l'époque, même controversée, même combattue, la question religieuse restait au centre des préoccupations des Français. On peut penser d'ailleurs qu'avec l'affaire de l'école libre, il n'est pas impossible qu'à nouveau la question religieuse revienne sur le devant de la scène. Mais d'une certaine manière, sur un plan strictement sociologique, le désintérêt pour les questions religieuses était peut-être pire encore que la guerre antireligieuse, dans la mesure où elle réduisait réellement tout ce qui était religieux, nous disons il y a un instant, dans le domaine du privé. Où non seulement les liens entre Église et société étaient distendus, mais étaient tout simplement rompus. Et il est de moins en moins question, sauf encore dans notre région ou dans d'autres régions semblables, d'un conformisme social, sauf pour ce qui est des chrétiens sociologiques, mais d'une intériorité, en ce sens que ce qui était religieux passait du domaine du public au domaine privé. Alors on répondra que le protestantisme a toujours milité pour ce genre de choses. Le protestantisme a milité pour la séparation de l'Église et de l'État, car il estimait que cette séparation était quelque chose qui était conforme à l'essence même de l'Évangile. Il avait raison de le faire. Et les protestants, au siècle dernier et au début de ce siècle, ont été à la pointe du combat laïque. D'ailleurs, on constate qu'il n'y a de véritable laïcité que dans les pays chrétiens. Tout à fait intéressant de voir, par exemple, que dans les pays musulmans, la notion même de laïcité, ça n'existe pas. Par exemple, quand le brave Yasser Arafat proclame son désir de créer un État démocratique et laïque en Palestine, il suffit de connaître un petit peu l'islam pour savoir ce que ça veut dire. La laïcité, la notion même de laïcité, ça n'existe pas. La notion de laïcité est une notion chrétienne, et uniquement chrétienne. Au vrai sens du terme, c'est-à-dire dans le respect de la liberté mutuelle de l'Église et de l'État. C'est-à-dire que l'Église s'interdit d'interférer dans ce qui est propre à l'État, ce qui est du domaine de l'État, et en échange de quoi, l'État se refuse, lui à son tour, d'intervenir dans les affaires intérieures de l'Église. Voilà ce qu'est la véritable laïcité. Et il est encore une fois évident que les protestants ont été à la pointe de ce combat-là. Que ce soit au moment des lois laïques sous la Troisième République avec Jules Ferry, etc., que ce soit en 1905 les lois de séparation de l'Église et de l'État, il y avait une influence protestante très profonde dans la promulgation de ces lois-là. Cette laïcité protestante se trouvait définie sur le plan théologique par ce qu'on appelle, en théologie protestante, la doctrine des deux règnes. à savoir que le chrétien appartient à un royaume qui n'est pas de ce monde, et par conséquent à une réalité qui n'est pas assimilable avec le train de ce monde, les choses de ce monde, et par conséquent ne veut pas, en tant que chrétien, interférer en tant que tel dans les affaires du monde. Mais par contre, le chrétien, s'il n'est pas du monde, est aussi dans le monde. Et il est dans le monde cette fois-ci, non pas seulement en tant que chrétien, non pas en tant que chrétien, mais en tant que citoyen. En tant que citoyen de l'État français en particulier. D'un État qui est souvent d'ailleurs dans sa culture anti-protestant, nous l'avons vu ensemble la dernière fois. Mais en tant que Français, le protestant sera un bon Français. Il sera d'autant meilleur Français qu'il est chrétien. Et il se fera, en tant que chrétien, un devoir d'être un bon Français, un bon citoyen, d'agir dans les affaires de l'État, dans les affaires de la société civile, du mieux qu'il pourra, de servir cette société, c'est-à-dire de servir son prochain, le mieux qu'il pourra, mais il le fera à cause de sa foi chrétienne, mais sans mettre celle-ci en avant. Sans agir en tant que membre d'un parti chrétien ou d'un parti protestant. C'est ce qu'on appelle la doctrine des deux règles. Qui évidemment, comme vous le savez, vous vous rendez compte très facilement, est tout simplement la doctrine biblique des rapports de l'Église et de l'État, en fin de compte. Et cette doctrine des deux règles a certes abouti aujourd'hui en ceci que les catholiques se trouvent plus ou moins dans une situation qui se rapproche de celle-là, même si souvent pour eux ils l'acceptent à contre-cœur, et on le voit justement avec les événements actuels qui montrent que l'Église catholique se résigne mal à cette privatisation de la foi. Seulement, il y a un autre phénomène qui découle de ce qui peut être positif, qui est une chance pour l'Église, une chance extraordinaire que cette séparation de l'Église et de l'État, parce que l'Église retrouve sa liberté. L'Église a la possibilité maintenant d'écouter sans compromis l'appel du Seigneur et de répondre à cette vocation qui lui est adressée, sans arrière-pensée, sans crainte de déplaire au pouvoir dont elle aurait pu attendre une manne quelconque, comme c'était le cas autrefois. Donc c'est une chance. Mais si c'est une chance, et c'est aussi une menace. C'est une menace pour l'avenir, parce que l'Église ayant cessé d'influencer la société, cette dernière redevient païenne. Et, encore une fois, il y a marginalisation de la foi, de toute foi, catholique ou protestante, moins pour ce qui est du catholicisme, à cause de la masse du catholicisme d'une part, et d'autre part parce que dans les esprits, sinon dans les faits, le catholicisme reste religion d'État, dans les esprits, je dis bien, même si ce n'est plus dans la Constitution, dans les faits, c'est la religion d'État. Il suffit de voir, par exemple, l'Église de France. On parlera à la radio de l'Église de France. Qu'est-ce que c'est l'Église de France? Ben, sous-entendez, c'est l'Église catholique. Il n'y a même pas besoin de préciser. Par contre, on vous parlera des protestants de France. Quelqu'un me parlait l'autre jour d'un article ou d'un sondage. Les Français aiment-ils leurs évêques? Parce qu'il est bien évident que tout Français est catholique et par conséquent, il a un évêque. Le catholicisme reste religion nationale, dans les esprits. Alors il est moins touché par ce phénomène de privatisation que le protestantisme, qui lui est vraiment aux abois à cause de cette affaire. Parce que la foi protestante en particulier est réduite à une espèce de dimension quasi folklorique. Les associations cultuelles sont des associations au même type que les associations de folklore breton, ou d'associations culturelles quelconques, associations sportives, associations artistiques, etc. C'est exactement la même chose. Deuxièmement, il y a l'environnement avec les comportements de plus en plus antichrétien, antibiblique, les mœurs, etc. Si bien que, quand on voit la conjonction de ces trois réalités, c'est-à-dire d'une part la perte de ses racines, la perte des certitudes, la pénétration du catholicisme et la privatisation de la foi, eh bien on peut se demander si, à terme, l'aboutissement n'est pas l'élimination totale. Et la question qui se pose au protestantisme est celle de son témoignage dans une société sécularisée. Et il y a, pour répondre à ce défi, un certain nombre d'évidences que le protestantisme doit redécouvrir, mais qui pour lui ne sont plus du tout évidentes. La première, c'est que la foi ne se vit pas seule, mais à l'intérieur d'une communauté. Et qu'il s'agit de retrouver, pour le protestantisme, le sens de l'Église. Sens qui ne lui est pas naturel parce que, déjà dans son essence, le protestantisme est une contestation de l'Église. Contestation de l'Église catholique, mais au travers de l'Église catholique, une contestation de l'Église. Et c'est pourquoi le protestant, sans beaucoup de difficultés, vivra sa foi dans le privé, lisant sa Bible tout seul, priant, etc., au besoin avec ses enfants, ça n'ira pas en général beaucoup plus loin, tandis qu'il ne reste plus grand-chose. Et c'est pourquoi, si le protestantisme doit avoir un avenir, il est indispensable qu'il redécouvre cette dimension ecclésiale. Et une dimension communautaire qui ne peut plus seulement exister au travers de communautés de type paroissial classique, mais qui implique réellement des communautés de partage où se retrouvent des individus motivés par les mêmes préoccupations, par les mêmes centres d'intérêt, pour ce qui concerne les choses de Dieu notamment. Et finalement, vous l'avez compris, c'est ce que nous essayons de faire en ce qui nous concerne. Deuxième réalité, c'est que la foi, c'est quelque chose qui se transmet. Et ça va encore une fois contre cette tendance à la privatisation de la foi. On assiste de plus en plus à cette évolution où beaucoup de protestants diront qu'ils ont une foi pour eux-mêmes, une foi qu'ils auront d'ailleurs presque une véritable pudeur à partager, à discuter. Certains vous diront que j'entendais parler de ça dernièrement, j'ai trouvé ça remarquable, c'est impoli de parler des choses de Dieu avec quelqu'un d'autre. Ça ne se fait pas, c'est déplacé de parler des choses de Dieu. Vous pouvez parler de n'importe quoi, de pornographie, des choses de vos... des cochonneries les plus énormes, bon, ça, c'est pas déplacé. Mais parler des choses de Dieu, c'est déplacé. Ça se fait pas. Avec des gens qui sont bien éduqués, bien polis, bien policés, ça, c'est pas possible. Parle pas des choses de Dieu, c'est une question privée. Et ça va tellement loin que même le partager avec les enfants, le transmettre aux enfants, en milieu protestant, ça se fait de moins en moins. Avant, il y avait au moins cela, en ce sens que on confiait les enfants à l'école du dimanche, puis au catéchisme, jusqu'à la communion qui se faisait en général à 14 ans. Et à 14 ans, eh bien alors là, quand on avait communié pour la première fois, on avait aussi communié pour la dernière fois, on était tranquille, c'était fini. On avait... Les protestants. Ah oui. Ah oui. Oui, c'était la même chose, les catholiques en général. C'était fini, c'était terminé. Mais maintenant, on assiste à ce phénomène où même cela, ça ne se fait plus. Ça se fait de moins en moins. Les groupes de catéchisme dans les églises réformées fondent comme beurre au soleil parce que le raisonnement que l'on tient est celui-ci. Je ne veux pas conditionner mes enfants. C'est eux qui choisiront plus tard, quand ils seront grands, s'ils veulent croire ou ne pas croire. Alors on va se garder de leur dire quoi que ce soit qui pourrait les influencer dans le sens de la foi. Comme ça, on est à peu près sûr qu'ils vont choisir contre la foi. Ça, c'est, ça peut être à peu près sûr à 100%. Si bien qu'il n'y a plus cette transmission de génération en génération de la foi, qui est une des bases, finalement, de l'évangélisation. Il est bien évident que, bibliquement parlant, les premières personnes à évangéliser sont les enfants des chrétiens. Et si on ne reprend pas conscience de cette nécessité essentielle et vitale, alors il est bien évident que d'ici deux ou trois générations, c'est fini du protestantisme, on n'en parle plus. Troisième réalité, c'est que non seulement il s'agit de transmettre la foi de génération en génération, mais il faut également communiquer et diffuser la foi, c'est-à-dire évangéliser. Peut-être pas évangéliser au sens pentecôtiste du terme, mission saluée, guérison, le grand missionnaire, envoûtement et tout, non. Mais justement, partager l'évangile, en parler, l'affirmer. Je pense que c'est un phénomène, ce sont des phénomènes qu'on retrouve aussi à différents niveaux dans le catholicisme. Je lisais un article dernièrement d'un catholique qui se plaignait que dans le débat de l'école libre, il citait le discours de Nutziger, je crois, si ma mémoire est bonne, ou d'un autre, ce dernier n'aurait pas fait une seule fois allusion à Dieu, n'aurait pas cité le nom de Dieu dans son discours. Il en était profondément choqué, avec raison, je crois. Disons que dans le fond, l'Église est prête à parler de n'importe quoi, de quelques tous les problèmes sociaux, etc. Mais quand elle parle de Dieu, ce qui est quand même, après tout, sa mission essentielle, elle en parle du bout des lèvres en s'excusant d'en parler. Et c'est tout à fait exact. Alors, c'est vrai en catholicisme, mais c'est encore plus vrai dans le protestantisme. Vous avez des gens qui se vantent, n'est-ce pas, de ce que leur entourage ne savent pas qu'ils sont protestants. Ils en sont fiers. Alors, je crois que là, il y a un problème. Il y a un problème pour l'avenir du protestantisme à partir du moment où on en est là. Parce qu'il faut, sur un plan purement sociologique, ici, en dehors de toute référence biblique même, rien ne peut aboutir si ce n'est pas repris en compte par une collectivité. Aucune idée ne peut aboutir si elle n'est pas reprise en compte à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait quelque chose de visible où s'incarne cette idée. Il faut qu'il y ait une présence, un lieu, une parole entendue, une parole partagée, une parole reçue. Autrement dit, encore une fois, il faut qu'il y ait un lieu d'église. C'est ça l'église. C'est un lieu où la parole retentit. Un lieu que l'on peut situer avec précision. Et ceci implique précisément, encore une fois, cette redécouverte de la réalité de l'église. Enfin, le protestantisme se trouve, je dirais, coincé dans une contradiction. Cette contradiction, c'est sa situation de minorité. Et puis finalement, ce qui fait l'essence de l'Évangile, c'est-à-dire la vocation à l'universalité. Aujourd'hui, le christianisme, en général, et le protestantisme en particulier, se trouve privatisé, marginalisé, c'est-à-dire réduit à n'être professé que par une minorité de gens dans la société moderne. Mais en même temps, la vocation du chrétien, c'est d'appeler tous les hommes, c'est-à-dire toute la société qui l'entoure, à devenir chrétienne. C'est exactement le sens du message de Paul dans l'Épître aux Romains en particulier. Alors il y a ce conflit, cette contradiction entre la situation de minorité, dans lequel le protestantisme aurait tendance à se complaire, et il y a une espèce de culte, je dirais, de la faiblesse actuellement, une glorification de la faiblesse qui peut être biblique, et c'est vrai, Paul se dit, je me glorifie de mes faiblesses, etc. Mais qui est plutôt une glorification de la médiocrité, ce qui n'est pas, évidemment, le cas chez Paul. La faiblesse est là pour ne pas faire obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu. Or, si la faiblesse est là dans le protestantisme, ça, n'en doutons pas, la puissance de Dieu, elle est beaucoup moins manifeste. Alors, il est certain que ce culte, n'est-ce pas, cette situation de minorité dans laquelle se complaît, se heurte à cette vocation à l'universalité que rappelait vigoureusement Carbonnier dans notre dernière étude. Et finalement, nous retombons à la question qu'il posait, en paraphrasant Hamlet de Shakespeare, n'est-ce pas ? To be or not to be, être ou ne pas être. Le protestantisme a-t-il la volonté d'être ? A-t-il la volonté de vivre ? Or, le message qu'il a annoncé, c'est le message de Jésus-Christ ressuscité. Et par conséquent, il faut qu'il vive pour annoncer ce message. Ce n'est pas un protestantisme mort ou un christianisme mort qui annoncera Jésus ressuscité. Ce n'est qu'une réalité vivante qui peut rendre témoignage d'un Seigneur vivant. Alors, voilà en gros, si vous voulez, comment se présente la situation. Elle peut se résumer en un mot, le protestantisme va-t-il consentir ou non à sa propre mort ? Va-t-il être ou non son propre fossoyeur ? Il y a dans la situation deux réalités. Bon, il y a des choses que l'on subit, qu'on ne peut pas changer, la situation de minorité, l'histoire, etc. Et puis, il y a ensuite, à partir de ces données que l'on a, ce qu'on en fait. La situation, c'est ce que l'on subit, mais c'est aussi ce que l'on fait soi-même. Et si le protestantisme se trouve dans cette situation de crise, c'est aussi parce qu'il a lui-même précipité cette crise et parce qu'il ne cesse de la précipiter. Alors là, je voudrais peut-être, avant de voir rapidement la vocation, faire référence à une interpellation catholique, celle qui avait été donnée dans l'Assemblée du protestantisme en 1976 par l'évêque Le Bourgeois, qui est évêque d'Autun et responsable des relations œcuméniques pour le compte de la conférence épiscopale. Ce dernier avait été invité à l'Assemblée de 1976 pour adresser une interpellation catholique aux délégués de l'Assemblée générale. Et cette interpellation me semble très intéressante parce que, d'ailleurs, elle est aussi au centre du débat œcuménique actuel, parce que aussi elle éclaire un peu cette situation. C'est bon parfois de voir comment les autres nous voient. C'était le sens de la démarche des responsables de la Fédération protestante quand ils avaient demandé cette interpellation à l'évêque Le Bourgeois. Alors, d'abord, Le Bourgeois a commencé à caresser les gens dans le sens du poil. En rappelant que le protestantisme, pour lui, c'était un chrétien, il était heureux de le savoir, mais d'abord un chrétien responsable. Faut-il sous-entendre que le catholique n'est pas un chrétien responsable dans l'esprit de l'évêque Le Bourgeois ? Je n'irai pas jusque-là, mais enfin, ceci rappelait qu'il voyait un chrétien responsable et ensuite un chrétien libre. Même remarque pour le terme précédent, faut-il donc conclure que les catholiques ne sont pas libres. Mais après avoir dit ces bonnes paroles qui ont fait tout le monde se pâmer d'aise, il est arrivé aux épines après avoir lancé les roses. Et les épines les ont fait mal. Alors, voici quelques questions qu'il a posées. Il dit voilà, quelle est la consistance de la doctrine des églises de la réforme ? Quelles sont les convictions doctrinales de ces églises ? Finalement, ce qui était sous-jacent derrière cette question, c'est que vous ne savez pas ce que vous croyez. Alors, comment pouvons-nous, nous, catholiques, dialoguer avec vous si nous n'arrivons pas à savoir ce que vous croyez ? Et nous n'arrivons pas à savoir ce que vous croyez parce que vous-même, vous ne savez pas ce que vous croyez. Alors commencez par mettre un petit peu d'ordre dans votre pagaille, commencez à mettre un peu d'ordre dans cette espèce d'incohérence qui est la vôtre sur le plan doctrinal, et dites-nous ce que vous croyez pour qu'on puisse commencer à discuter quand même. Et là, nous voyons justement, au travers de cette question, que la crise, y compris la crise d'identité ecclésiale, vient d'une crise de la foi, au milieu protestant. C'est vrai aussi au milieu catholique, moins. Dans ce sens que une des bases essentielles de la réforme, le sola scriptura, l'écriture seule, a totalement disparu. L'écriture n'est plus la référence. L'écriture n'est plus l'autorité. On n'a plus de foi dans la Bible. Je citais tout à l'heure les conclusions du dernier synode, enfin pas les conclusions, mais les débats plutôt du dernier synode de l'Église réformée de France, qui s'est tenu à Dourdan ces jours derniers, et qui discutait de la question du mariage, où on entendait par exemple dire que la polygamie était tout à fait biblique, parce que Salomon a eu 1000 femmes, alors qui dit mieux quoi, hein? Qu'il fallait une nouvelle Pentecôte, et la nouvelle Pentecôte était là pour faire craquer le carcan du mariage, pour que ensuite la liberté de l'esprit puisse être redonnée dans ce domaine-là, la liberté de l'esprit, dans l'esprit de celui qui rapportait l'affaire, c'est-à-dire le pasteur Grimm, c'était la liberté d'exprimer ses instincts les plus bas et les plus pervers, c'était ça. Alors, c'est blasphématoire. Assimiler ça avec la Pentecôte, avec l'action de l'esprit de Dieu, ce qui n'est finalement qu'une sexualité débridée comme les païens les plus abominables, comme Sodome et Gomorre, je dis, mais comment on peut en arriver là? Parce qu'il n'y a plus de base. Parce qu'il n'y a plus de foi dans la Bible. Parce qu'il n'y a plus de foi dans l'Écriture sainte. Et le corollaire, c'est celui que notait l'évêque Le Bourgeois, il n'y a plus de doctrine. On ne sait plus ce qu'on croit. Et croit-on encore? Dans la dernière Assemblée générale, celle qui s'est tenue à La Rochelle en novembre, est intervenu un romancier bien connu, d'origine protestante, Jean-Pierre Chabrol. Sévenol, et Chabrol, dans son style un peu truculent, d'ailleurs pas toujours d'un très haut niveau, loin s'en faut, c'est parfois un peu honteux qu'un gars comme ça intervienne dans une assemblée du protestantisme, mais Chabrol a évoqué une petite anecdote, je dis carrément protestant, mais ne croyant en rien. Tout à fait normal. On peut être protestant et être athée, quoi. C'est pas très bien. Tout à fait compatible. Alors, il racontait quand même un jour qu'il se promenait avec un pasteur dans son village natal des Cévennes. Et puis, justement, ce soir-là, il était un petit peu découragé. Alors, il se tourne vers cet ami pasteur. Il lui dit, écoute, toi qui es pasteur, là, tu pourrais pas me refiler un peu de foi? Tu sais, ce soir, j'en aurais un peu besoin. Alors, l'autre lui dit, écoute, mon vieux, je voudrais bien pouvoir t'en refiler de la foi. Mais j'en ai plus moi-même. Alors il dit, j'ai lui été vraiment reconnaissant de sa sincérité. Mais nous, on était beaucoup moins à l'aise. Quelle doctrine, hein. L'évêque continuait en disant, quelles sont vos convictions doctrinales, notamment sur les ministères? Et là, nous voyons que la question des ministères est au centre du débat œcuménique à l'heure actuelle. Troisième question, où sont vos églises? Quelle est votre ecclésiologie, c'est-à-dire votre doctrine de l'Église? Et Le Bourgeois avait mis le doigt sur la plaie, sur les deux mots essentiels dont souffre actuellement le protestantisme, la perte des certitudes et partant la perte de la vision de l'Église. Où sont vos églises? Et c'est sûr. Et sa conclusion, comment dialoguer avec des frères dont l'Église est incapable de dire ce qu'elle croit ou ce qu'elle professe. Et là, je crois qu'on est exactement au cœur du débat. L'Église, les églises protestantes, l'Église réformée notamment, est incapable de dire une parole cohérente, est incapable de dire quoi que ce soit, et c'est aussi la raison pour laquelle, comme le notait Jacques Ellul, on entre aujourd'hui dans une Église de la monstration. C'est pour ça que les braves diaconesses se mettent à danser, elles aussi. Parce qu'il n'y a plus rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez quand ce brave Chabrol demandait à son pasteur une parole de foi, l'autre lui dit non. J'entendais parler encore dernièrement d'un pasteur qui pleurait avant de faire un enterrement parce qu'il ne savait pas quoi dire, il n'avait rien à dire. Rien à dire. Alors on se lance dans tous les spectacles, pour ce qui est des églises plutôt, enfin, qui sont encore dans une certaine ligne, mais autrement c'est l'action politique qui prime. L'action politique et sociale, parce que autrement on ne croit plus à rien. Alors, l'évêque Le Bourgeois posait deux questions. Il dit, quelles sont vos convictions aussi sur le plan de l'éthique? Et là aussi le bas blesse durement. Et je vais vous dire que ces questions-là, elles ont fait mal. Mais on s'est empressé de tourner la page rapidement au milieu protestant. Seulement les catholiques n'ont pas tourné la page. Et l'an dernier à Chantilly, dans la rencontre au plus haut niveau de l'œcuménisme, les questions sont sorties. Depuis 1976, nous attendons toujours, on dit les catholiques, une réponse protestante aux questions que l'évêque Le Bourgeois a posées en 1976. Et alors là, la confusion des autorités protestantes faisait peine à voir, y compris de Jacques Maury, qui passait par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai dit non, il n'y a rien à dire. C'est contre ça qu'il a voulu réagir dans la parole humiliée. N'est-ce pas ? Alors, revenons quelques instants justement sur ces questions d'éthique. Il y a plusieurs années de cela, la Fédération protestante de France a publié un document qui a fait grand bruit, qui était intitulé « Église et pouvoir ». C'était dans la mouvance de mai 68. Tout le monde, les esprits étaient un peu échauffés. Et en gros, « Église et pouvoir » était un document qui disait le christianisme plutôt ne peut plus pactiser avec les pouvoirs oppresseurs. Et il doit militer pour l'instauration d'un monde meilleur qui ne pourra être établi que par la révolution violente. Voilà. Église et pouvoir. Alors là, le catholicisme a réagi. A réagi en disant, c'est inacceptable. Quelque temps plus tard, le même organisme publiait un document sur l'éthique sexuelle et familiale. On y lisait entre autres choses, non seulement que le divorce et le remariage des divorcés étaient des choses possibles, non seulement, et là évidemment il y avait une pierre dans le jardin catholique, que la contraception et le contrôle des naissances étaient une chose tout à fait normale, mais également que l'avortement était une chose aussi acceptable. Et les réformés, notamment, ont milité pour la loi Veil, pour la libéralisation de l'avortement. Nous arrivons maintenant à un nouveau stade, avec justement la question du mariage. Dernièrement, et c'était la dernière assemblée de La Rochelle, cette assemblée est aussi intervenue sur les armements nucléaires. Là où les évêques avaient fait une déclaration tout à fait équilibrée, d'une manière vraiment utopique, l'Assemblée générale a demandé à la France un désarmement inconditionnel et unilatéral. Il ne reste plus qu'à mettre des panneaux aux frontières. Bienvenue à nos envahisseurs russes bien-aimés. Des chambres vous attendent avec le petit déjeuner qui vous sera servi au lit dès demain matin. Il ne reste plus que ça. Alors, il est certain que là, en face de prise de position de ce type, le catholicisme réagit en général durement. Parce que il y voit évidemment un accompagnement de la sécularisation. Et le catholicisme, à l'inverse du protestantisme, a compris le danger qu'il y avait dans le processus de sécularisation de la société moderne. Alors que le protestantisme accompagne cette sécularisation et n'est pas du tout conscient du danger, au contraire, appuie dans ce sens-là. Et c'est pourquoi ce qui est le poison, si j'ose dire, des réformés, c'est essentiellement les réformés qui sont en pointe là-dedans, s'inocule aussi aux évangéliques, par osmose, à un degré moindre, Les évangéliques suivent avec un temps de retard cette évolution-là, mais ils la suivent quand même. Et ça, on le voit de plus en plus. Revenons quelques instants justement sur cette question du mariage qui était au centre des débats du dernier synode, notamment à la suite de la question qui était posée par deux jeunes pasteurs qui demandaient leur ordination ou leur consécration, comme on préfère dire en milieu réformé, tout en précisant qu'ils étaient des cohabitants. En termes délicats, ces choses-là sont dites, ça veut dire qu'ils vivaient en concubinage. Et ils n'avaient pas du tout envie de se marier, ils le précisaient. Et pas question pour nous de nous marier. Alors, la question posée au synode était la suivante. Peut-on ordonner des pasteurs cohabitants? Peut-on ordonner des pasteurs qui vivent en concubinage et qui refusent de se marier? Alors voilà la réponse qui a été donnée par le synode. Je vous la lis. Alors, la signification de la cérémonie civile et religieuse du mariage. Le synode national de Dourdan, appelé à se prononcer sur la signification et l'importance des cérémonies civiles et religieuses du mariage, la question étant posée par le nombre croissant de cohabitants parmi lesquels de nombreux chrétiens, c'est beau tout ça, voire quelques candidats au ministère, pense pouvoir exprimer les convictions suivantes à l'issue de ses travaux. Premièrement, nous affirmons que le respect, l'amour et la fidélité sont constitutifs de tout couple qui s'engage dans un projet commun. Cela, alors jusque maintenant rien à redire, ça fait bien, cela vaut tant pour les couples de cohabitants que pour les couples mariés civilement. Donc, le mariage tout à fait relativisé, c'est la nouvelle Pentecôte, comme disait l'autre. Cette conviction doit être partagée dans l'Église par une parole libératrice pour tous. Et voilà, la libération, c'est de vivre dans le péché maintenant. C'est plus la libération du péché, c'est la liberté de vivre dans le péché. Voilà. Deuxièmement, au sein du couple, les enfants sont signe d'ouverture et d'espérance. Les accueillir et les éduquer est une des vocations privilégiées du couple. C'est aussi une responsabilité de longue durée qui requiert la stabilité de cette union. Ces réalités peuvent être vécues. Alors voilà, jusqu'ici c'est très bien. Ces réalités peuvent être vécues aussi bien dans la cohabitation que dans le mariage. Conclusion, le synode réformé accepte le concubinage. Voilà. Légalise le concubinage. Hein. Il est question d'une durée, alors ça peut durer 20 ans, 10 ans, 5 ans, 6 mois. C'est la durée aussi, tout ça. Bon. Troisièmement, nous affirmons que même l'Église réformée de France ne marie pas, mais lorsqu'elle intervient, c'est pour répondre à la demande du couple de vivre son amour devant Dieu. Bon, rien à redire à ça. La cérémonie religieuse est de l'ordre du témoignage, non celui de la formation du couple, tout à fait normal. Elle est action de grâce pour le don de Dieu qui précède et appelle l'engagement du couple. Alors, quatrièmement, ce projet commun d'amour appelle sa visibilité. Déclaré devant un tiers, il reçoit confirmation de son identité. Nous exhortons les couples à une telle publication. Jusqu'à aujourd'hui, le lieu où cette publication se fait est le mariage civil. Nous n'avons pas pu arriver au synode à avancer au-delà de ces affirmations. Pour la majorité d'entre nous, la seule cérémonie religieuse ne nous semble pas actuellement pouvoir être un lieu de reconnaissance publique du couple. Nous pensons que les communautés doivent reprendre la réflexion sur cette question pour permettre à court terme une solution que nous devons aux couples de cohabitants. Alors, ce que, ça c'est un petit peu du chinois. Mais les réalités qui sont là tous sont celles-ci. C'est-à-dire que vous avez des couples de cohabitants, comme ils disent, qui demandent une bénédiction à l'Église pour pouvoir vivre dans le péché, comme après tout, puisque les gens qui se marient officiellement reçoivent une bénédiction de la part de l'Église, pourquoi est-ce que ceux qui ne se marient pas ne recevraient pas une bénédiction de la part de l'Église? C'est ça le problème. Alors on dit que là quand même ça a un peu tiraillé quoi dans le synode, il y a des gens, la plupart des gens disaient quand même qu'on ne peut donner qu'une bénédiction qu'à ceux qui sont mariés, même si on peut tolérer qu'il y ait des gens qui vivent sans être mariés, mais que dans le fond c'est pas normal, il faudrait qu'on reprenne la question, et donc nous pensons que les communautés doivent reprendre la réflexion sur cette question pour permettre à court terme une solution que nous devons aux couples de cohabitants, quelle que soit la responsabilité ou le service qu'ils exercent ou souhaitent exercer dans l'Église. Ce qui veut dire que on devrait laisser la porte ouverte à ces braves pasteurs cohabitants. Voilà. Cinquièmement, nous demandons à la Fédération protestante de France ou à défaut au Conseil national de l'Église réformée de France d'engager, écoutez bien ça, avec les pouvoirs publics, des contacts en vue de faire évoluer la législation actuelle sur le mariage. Donc de supprimer le mariage. Quoi. C'est beau le progrès, quoi, hein. On ne l'arrête pas. Seulement, on est dans une situation là extrêmement grave. Parce que nous avons vu la dernière fois, ou une des dernières fois, que si le protestantisme était populaire dans l'esprit des gens, encore une fois, c'est parce que les pasteurs se mariaient. Et comme notait un journaliste catholique dans l'Ouest France, relatant cela, avec un certain humour caustique, les prêtres veulent se marier et les pasteurs veulent devenir célibataires. Ce qui est tout de même un peu incomple. Alors, ils sont en train vraiment de scier la dernière branche sur laquelle ils sont assis et de précipiter un peu plus leur propre déclin, leur propre mort dont nous parlions tout à l'heure. Alors, je crois qu'on pourrait très rapidement maintenant parler de la vocation, parce que le temps est presque passé. La vocation, bien, je crois qu'elle est simple. Comme le disait Courvoisier, la vocation du protestantisme, c'est de vivre l'Évangile plus authentiquement que le catholicisme. C'est de fournir un cadre spirituel qui permette de vivre d'une manière plus authentique l'Évangile que celui, le cadre spirituel qui est offert par le catholicisme. Et cette réalité implique, plutôt pour répondre à cette vocation, cela implique, encore une fois, une restructuration totale. D'abord au niveau de la théologie. Une redécouverte de la Bible, de la parole, de la place centrale de la parole. Et c'est pourquoi, finalement, le cri d'alarme lancé par Jacques Ellul au travers de la parole humiliée était réellement une parole prophétique. Et si elle l'était, si elle a été pour nous, qui étions pourtant loin d'être dans la situation que Jacques Ellul visait, elle est a fortiori pour le reste du protestantisme. Et tout à fait navrant d'entendre Jacques Ellul lui-même dire que son bouquin est passé pratiquement inaperçu dans ces milieux-là. Deuxièmement, une reconstitution d'un tissu ecclésial au travers, encore une fois, de la constitution de communautés, ce que Courvoisier appelait des groupes Coligny, c'est-à-dire finalement, c'est à peu près cette vision-là, Jacques Ellul aussi dans le même sens, qui prendront en compte toute la globalisation, la globalisation des problèmes, et qui amène finalement les gens à un engagement pour lutter d'une part contre la situation de diaspora, qui est la plaie du protestantisme. Alors ça implique évidemment des renoncements. Et l'homme protestant n'aime pas beaucoup les renoncements. Renoncement à des avancements, à une brillante carrière qui impliquerait notamment de monter à Paris ou dans quelque autre grande ville semblable. Du calme. Renoncement à finalement la promiscuité des grandes villes. Là aussi, il y a quelque chose à revoir. Et puis, combat pour une véritable liberté et une véritable laïcité dans notre pays. À un moment où les mots sont piégés, à un moment où les mots n'ont plus le même sens, où laïcité devient synonyme d'athéisme et de combat anti-religieux, où liberté devient synonyme d'intolérance et de coercition déguisée par pression ou par conditionnement. Et finalement, le protestantisme vit aujourd'hui dans une véritable peur. Peur de ne pas être dans le vent, peur de parler, peur de se marginaliser et par conséquent d'être à nouveau rejeté. Et c'est pourquoi il accompagne le processus de sécularisation. Il y a là le poids de l'histoire qui joue. Trop content maintenant d'être accepté, voire d'être adulé, le protestantisme évite de dire toute parole qui pourrait aller à contre-courant et qui pourrait par conséquent braquer contre lui les hommes de ce temps, les hommes de la société moderne. C'est pourquoi il accompagne tous les courants, en fin de compte. Mais ce faisant, il se saborde lui-même. Et je crois que finalement, en conclusion, nous reprendrons simplement ce que disait Jacques Ellul sur la subsistance du peuple juif pendant la diaspora, au travers d'un certain nombre de réalités. Et là, moi, je développe sa pensée. D'abord, la parole, il le rappelait, à la loi au témoignage. L'essentiel de la crise vient de ce que l'on a abandonné la foi dans la parole. C'est une crise de foi, de la foi plutôt. Une crise de la foi. Deuxièmement, la reconstitution, encore une fois, de communautés d'église, de lieux d'église, où cette foi est vécue, où cette foi est manifestée, est rendue visible, et d'où sort une parole claire, une parole cohérente, une parole biblique. Et puis, je dirais, troisièmement, il y avait une autre réalité pendant l'exil, pendant les premiers siècles de l'exil, après la destruction du Temple en 70 en particulier, pendant l'époque byzantine, une institution qui a joué un rôle très important dans le peuple juif. C'était le système des académies, qu'on appelait en hébreu midrashot, c'est-à-dire des centres d'études, où se trouvait un certain nombre de, on dirait, de rabbins charismatiques, si je peux employer ce mot, qui n'est pas du tout, évidemment, adaptable à la réalité juive. Mais je veux dire par là de gens qui s'imposaient par les dons qu'ils avaient reçus sur le plan spirituel. Ce n'étaient pas des gens qui avaient été nommés parce qu'ils avaient passé des concours ou des choses comme ça, mais des gens qui avaient émergé, si je peux dire, par leurs valeurs spirituelles, et qui se regroupaient pour créer une académie dans un certain lieu. Et les grandes académies, elles se trouvaient à l'époque, il y en avait quelques-unes en Israël, en Galilée, à Tibergade notamment, mais les principales étaient en Babylonie, où le pouvoir romain ne pouvait pas atteindre les Juifs, et par conséquent, où politiquement, ils étaient beaucoup plus tranquilles. Et là, eh bien, on venait de toutes les communautés juives de la diaspora, que ce soit depuis la Perse, depuis la Gaule, depuis l'Afrique du Nord, etc., chaque fois qu'on avait des problèmes. Lorsqu'une communauté juive se trouvait en contact avec un problème pratique, bon, comment vivre nous, en tant que juifs, comment vivre notre foi dans, par exemple, la société d'Afrique du Nord, qui, bien entendu, a des institutions qui sont contraires aux lois juives. Comment devons-nous faire, nous? Alors on a envoyé ce qu'on appelait des apôtres, shlichim en hébreu, dans les académies, là-bas, pour demander une responsable, une réponse. On en envoyait parfois plusieurs. Bien entendu, ces gens-là ont voyagé dans les différentes communautés, ils ont donné leur route, ils étaient reçus. Et puis on leur disait, ah mais vous allez là-bas à l'académie, ah ben écoutez, pendant que vous y serez, nous aussi justement on a une question, vous pourrez en même temps aussi poser telle et telle question. Et là donc, les questions en question étaient débattues par les rabbins qui se trouvaient dans l'académie. Et puis ensuite les apôtres revenaient, comme on voit d'ailleurs c'était à l'époque à Jérusalem, quand il y a eu cette question de la circoncision, les apôtres sont montés à Jérusalem, puis sont revenus ensuite dans les églises, donner la réponse qui avait été décidée à Jérusalem. Mais ben voilà ce qui était décidé. Voilà la réponse. Et comme ça, le judaïsme a réussi à s'établir en face des défis qui lui étaient jetés. Et il me semble essentiel non seulement qu'il y ait ces communautés sur le plan local, appelons-les les groupes Coligny pour reprendre l'expression de Courvoisier, mais il me semble aussi essentiel qu'il y ait des lieux, en quelque sorte, de référence ou, en quelque sorte, soit porter des questions vitales et essentielles pour les communautés. Et qui légifère non pas d'une manière autoritaire à la manière de la papauté, mais uniquement par une autorité spirituelle, librement acceptée, librement reconnue par ceux qui s'y réfèrent, tout simplement. Et voilà qui me semble-t-il les trois seules réalités qui permettront au protestantisme de survivre à la crise. C'est ça, encore une fois, c'est là ou la mort, c'est être ou ne pas être. Voilà, est-ce que vous avez rapidement des questions ?